Chapitre 41. Simon, Victoria et les autres érudits ouvrirent la marche sur le chemin sinueux qui menait à la forteresse. À mesure qu'elle montait, Nietzsche évalua mieux la taille du complexe niché dans l'immense grotte. De quoi être de plus en plus impressionné. Les bâtiments en particulier étaient bien plus hauts qu'elle l'aurait cru. « Très imposant !» dit-elle en essayant d'imaginer comment on avait pu bâtir un tel monstre à flanc de falaise. Au fond, le palais des prophètes était peut-être 5 fois plus grand seulement. Chardon caracolait en tête du groupe de visiteurs. Très à son aise, elle ne ratait jamais une marche ou une prise. Impatiente, elle s'arrêta et se retourna.
« Avance, Nietzsche! Tu ne veux pas voir la bibliothèque ?»
Nathan aussi s'extasiait en découvrant la taille des bâtiments, la hauteur des fenêtres et des arches, et celle du portail principal.
Vous voyez la taille des blocs de pierre. Dans ce canyon isolé, seule la magie a pu construire une telle forteresse.
Une magie puissante, oui, approuva Nietzsche. Avant l'époque où le pouvoir a été quasiment banni de l'ancien monde.
Nathan marqua une pause, s'appuya à la paroi et reprit son souffle.
Un projet colossal.
Concéda-t-il. Après avoir pris pied dans la grande grotte, Chardon attendait ses amis devant l'immense complexe.
« Douce mère la mer !»
murmura Bannon.
« Je n'ai jamais rien vu de tel !»
L'air enfrogné, Victoria regarda sévèrement le jeune homme.
« Ta mère la mer n'a rien à voir là-dedans. Elle est très loin d'ici et ne nous a jamais aidés. Ce complexe est l'œuvre des hommes. » Pas des divinités, et il a coûté la vie à d'innombrables sorciers.
Simon leva vers la forteresse des yeux pleins de dévotion.
À l'époque des grandes guerres, les plus puissants sorciers du monde sont venus ici en secret. Pour construire et dissimuler le complexe, il leur a fallu des années, mais le jeu en valait la chandelle. L'empereur sous la canne et ses troupes, chargées d'éradiquer la magie, n'ont jamais découvert les trésors de connaissances entreposés ici. Des millénaires durant, le sort de camouflage a rempli sa fonction, seuls quelques villageois des canyons se rappelant l'existence de surplomb du monde.
« Tout a changé il y a 50 ans, »
dit Victoria, de la fierté dans la voix.
« Aujourd'hui, le savoir préservé est de nouveau accessible à tous. »
Nietzsche se retourna pour voir le soir tomber sur la vallée, au fond du canyon. Parmi les bergers, certains dormaient près de leurs troupeaux sous une tente dressée au cœur du pâturage. Sur le flanc des autres murailles rocheuses, la magicienne vit une multitude de demeures illuminées par des lampes et des feux, mais rien n'égalait la clarté du complexe éclairé par la magie.
« Nous étudions et nous nous formons aussi vite que possible !»
ajouta Simon enthousiaste. Sur la droite de la grotte, la structure la plus éloignée attira l'attention de Nietzsche. Une grande tour semblait avoir en partie fondu, comme si la pierre s'était transformée en cire. Certaines fenêtres étaient obstruées par des coulées qui, de loin, ressemblaient à de la glace fondue. Avant que la magicienne ait pu poser une question, les érudits ouvrirent en grand le portail et Simon fit signe à ses hôtes d'avancer.
« Vous venez de voir la forteresse extérieure, » dit-il, « mais surplomb du monde ne se limite pas à ça. » Un réseau de tunnels et de salles s'enfonce dans la mesa et débouche sur l'autre versant.
Dans ce qui devait être le bâtiment principal de la bibliothèque, des murs en pierre de taille supportaient une voûte si haute que le regard s'y perdait. Éclairée par des lampes éternelles, encore une merveille de la magie, la salle était remplie de rayonnages, où des rouleaux de parchemin voisinaient avec des grimoires reliés de cuir et d'antiques tablettes de céramique couvertes de symboles que Nietzsche ne parvint pas à identifier.
« J'ai hâte de commencer à lire !» dit Nathan, les yeux écarquillés.
« Ici ?» ricana Simon. « Ce ne sont que des textes mineurs écartés par les érudits, même s'ils semblaient a priori intéressants. Notre véritable trésor est gardé dans les entrailles de la montagne, et il est beaucoup plus conséquent que ça. »
3 acolytes rejoignirent Victoria. Très jeunes, ces filles ne devaient pas avoir plus de 20 ans. Victoria les accueillit d'un sourire.
« Merci d'être venue, très chère. Amis visiteurs, je vous présente mes 3 plus fidèles acolytes, Audrey,
Laurel et Sage. Vêtus d'une robe blanche serrée à la taille par une ceinture en tissu, les trois jeunes femmes étaient belles à couper le souffle. Les pommettes hautes et la bouche sensuelle, Audrey arborait une crinière noire brillante. D'une blondeur tirant sur le roux, Laurel laissait cascader ses cheveux à l'exception d'une natte ornementale sur un côté. Sous ses yeux verts magnifiques et son nez parfait, le sourire de ses lèvres fines révélait deux rangées de dents étincelantes. Les cheveux au burn, Sage était doté d'une poitrine à faire se damer un sein. Nietzsche et Nathan saluèrent distraitement les trois grâces. Rouge comme une pivoine, Bannon se fendit d'une révérence exagérée. Quand les jeunes beautés lui sourirent, visiblement séduites, il vira l'écarlate. Victoria attira l'attention de ses assistantes.
« Ces étrangers doivent être fatigués et affamés. Je propose que nous mangions en écoutant leur histoire. Allez faire mettre quatre couverts de plus. »
Elle se tourna vers ses invités. « Ici, tout le monde se réunit pour le repas de midi. Au menu, nous avons de l'antilope rôti accompagnée de maïs et, en dessert, des fruits au miel et des pignons. » Nietzsche s'avisa qu'elle crevait de faim.
« C'est prometteur !» dit Nathan, ravi. « Et sûrement préférable à du lézard !»
Chardon le foudroyant du regard, il rectifia le tir.
« Ne va pas croire que nous n'avons pas aimé, petite, mais en toute chose, un peu de variété ne fait jamais de mal. »
Dans la grande salle à manger, des hommes et des femmes de tous les âges se restauraient autour des longues tables. Murmurant entre eux, ils échangeaient des informations sur les dernières merveilles découvertes dans des grimoires oubliés. Trop concentrés pour remarquer les visiteurs, la plupart avalèrent leur viande et leur maïs et repartirent au travail sans attendre le dessert. Après que tout le monde eut pris place sur un long banc, Simon se servit de l'antilope et fit passer le plat à Nietzsche qui choisit un morceau puis le transmit à Nathan.
« Dites-nous en plus sur surplomb du monde, » fit le vieil homme en remplissant son assiette. « La construction, l'objectif final, tout ça, quoi. »
Simon sembla considérer que répondre faisait partie de ses devoirs de conservateur en chef. Dans l'ancien monde, il y a 3000 ans, soit au début des grandes guerres, on traquait et tuait les sorciers. La magie en soi était tenue pour suspecte. L'empereur Sulakan avait engagé des purificateurs chargés d'éradiquer toute forme de pouvoir qu'il ne pouvait pas s'approprier. Comme ses prédécesseurs, il entendait monopoliser les connaissances collectées au fil des générations.
Les sorciers ne se laissèrent pas faire si facilement.
De ville en ville, de bibliothèque en bibliothèque, ils prévinrent tout le monde. Les troupes de l'empereur ayant l'avantage du nombre, l'issue du conflit paraissait inévitable, donc il fallait trouver un moyen de préserver le savoir. Les érudits qui possédaient le don réunirent tous les grimoires et tous les recueils de prophéties, puis les exfiltrèrent des bibliothèques universellement connues. Prudents, ils cachèrent les ouvrages qu'ils n'avaient pas eu le temps de copier. Perché sur le banc, Chardon accordait peu d'attention à la conversation. En revanche, elle s'intéressait beaucoup à l'antilope et se resservit avec les doigts. La première fois depuis longtemps qu'elle mangeait une viande si bonne, à supposer que ça lui soit arrivé. « Les sorciers renégats, » continua Simon, cette fois en regardant Nietzsche, « trouvèrent ce canyon et sa vallée, un endroit où nul ne les débusquerait. Des années durant, alors que Sulakan continuait à conquérir le monde, ils firent de la contrebande de grimoires, de rouleaux de parchemins, de tablettes et d'artefacts, avec bien entendu surplomb du monde pour destination. » Un lieu qu'ils avaient construit et dont ils ne trahiraient jamais la localisation, même sous la torture. Quand les derniers grimoires furent arrivés à destination, les sorciers s'avisèrent qu'ils ne pouvaient pas compter uniquement sur la situation géographique de la bibliothèque pour les protéger. Il leur fallait des défenses plus puissantes.
« Et plus permanentes !» ajouta Victoria.
« Du coup, » enchaîna Simon, « les sorciers invoquèrent un champ de force impénétrable » et un camouflage parfait. Pendant des millénaires, personne n'a vu autre chose que la face lisse d'une muraille rocheuse. Victoria semble désapprouver cette façon de raconter l'histoire.
Le sort de camouflage était en même temps une barrière bien réelle. Personne ne pouvait la traverser.
surplomb du monde devait disparaître jusqu'à ce que les ennemis de la magie aient été rayés de l'univers.
Nietzsche se tourna vers Nathan.
L'équivalent de ce que Barakus a fait avec le Temple des Vents, dit-elle. Mais lui, il l'a exilé dans le royaume des morts.
C'est ainsi, acheva Simon, que de précieuses connaissances furent préservées en des temps troublés. Sans surplomb du monde, tout aurait disparu lors des purges de Sulacan. Au lieu de ça, ces merveilles ont survécu pendant des milliers d'années.
Tout n'aurait pas disparu, corrigea Victoria. Il y avait un plan de secours.
À contre-cœur, Simon transmit la parole à sa collègue. Prenant un épi de maïs, il le dévora à grand bruit.
« Les textes étaient à l'abri dans les archives, » précisa Victoria. « Mais les sorciers avaient prévu une sauvegarde implantée dans l'esprit de gens spéciaux censés ne jamais rien oublier. Parmi les habitants des canyons chargés de veiller sur surplomb du monde, les sorciers choisirent ceux qui avaient un don particulier pour graver des choses dans leur esprit. Ces mémoristes, soutenus par la magie, se révélèrent capables d'enregistrer des centaines de documents dans leur cerveau.
« Pourquoi faire ?» demanda Nathan.
« Pour ne perdre aucune donnée, bien entendu, » répondit Victoria. « Avant l'érection du camouflage, ces mémoristes ont appris par cœur tous les textes des archives. »
Victoria ne put dissimuler sa profonde fierté.
« Nous sommes le reflet de la bibliothèque. En nous, les connaissances resteront vivantes jusqu'à la fin des temps. »
Richard, se souvint Nietzsche, avait mémorisé le grimoire des ombres recensées de la première à la dernière ligne, et à l'époque il n'était qu'un banal guide forestier. George Cypher lui avait fait apprendre le texte, brûlant chaque page dès qu'il l'avait mémorisé. Tout ça pour que Darkenral n'ait pas accès à des informations vitales. Même si l'ouvrage n'était au bout du compte qu'une copie incomplète, Richard avait pu l'utiliser pour vaincre Darkenral puis l'empereur Jagang. Mais le grimoire des ombres recensées n'était qu'un seul livre. Les mémoristes, eux, en avaient enregistré des centaines chacun. Une tâche écrasante dont Nietzsche imaginait très mal la difficulté. Victoria pianota sur la table en bois brut.
« Je suis une mémoriste, comme toutes mes acolytes. »
Comme par hasard, Audrey, Laurel et Sage arrivèrent avec le dessert. Elles servirent d'abord Bannon, qui ne sut pas trop où se mettre, puis firent circuler les plats.
Nathan choisit une tranche de poire, la dévora et suça le miel qui restait sur ses doigts.
« Vous avez mémorisé des milliers de volumes ? » demanda-t-il à Victoria. « C'est impressionnant, mais un peu difficile à croire, je dois l'avouer. »
« Même avec l'aide d'un sortilège et en ayant le don, une seule personne ne pourrait pas accomplir cet exploit. Nos ancêtres ont réparti la charge de travail entre les mémoristes. » Chacun doit se souvenir d'un nombre précis d'ouvrages. Grâce à cette méthode, l'essentiel des connaissances fut préservé. Mais, au fil des générations, la transmission entre mémoristes a provoqué une certaine dispersion des ouvrages, et selon les époques, il ne fut pas facile de trouver assez de jeunes gens pour prendre le relais.
Victoria se tapota la tempe.
« Quoi qu'il en soit, le savoir est bien là, bien à l'abri. »
N'aimant pas les desserts, Nietzsche passa le plat à Chardon, qui se servit encore avec les doigts.
Pendant des millénaires, vous avez appris par cœur ces textes, sans rien en perdre ni vous tromper?
Un mémoriste, intervint Simon, s'entraîne avec plusieurs acolytes et leur apprend à ne pas oublier un seul mot d'un sortilège. Ainsi, les mémoristes ont conservé des connaissances, alors que les ouvrages de référence étaient indisponibles dans le monde extérieur. Le camouflage assurait la sécurité de tous.
Simon but un peu d'eau, s'essuya la bouche et continua.
Hélas, tous les sorciers assez puissants pour neutraliser le champ de force moururent durant les grandes guerres. Du coup, les archives de surplomb du monde restèrent inaccessibles. Derrière le camouflage, personne ne pouvait les atteindre.
Jusqu'à ce que je trouve un moyen de neutraliser le sort, coupa Victoria. Depuis 50 ans, les archives sont de nouveau disponibles.
La mémoriste choisit 3 grosses fraises dont elle se régala, puis s'essuya les doigts avec une serviette.
« À l'époque, j'avais à peine 17 ans. »
Simon regarda les érudits encore attablés plongés dans leur conversation.
Oui, et ça a tout changé. Après des millénaires, les gardiens de ce trésor ont enfin eu accès à de fabuleuses informations.
Mais qu'est-ce qui les prédisposait à ça?
Ce n'étaient que des villageois sans imagination, et qui ne savaient rien du monde. Les mémoristes même, s'ils pouvaient réciter des centaines de milliers de mots, n'en comprenaient pas souvent le sens. Comment les en blâmer avec toutes ces langues mortes?
Nous comprenions quand même beaucoup de choses, coupa Victoria piqué au vif. Mais nous n'avons jamais caché qu'un peu d'aide ne nous ferait pas de mal. Par chance, les habitants du canyon commerçaient avec les villes de la vallée fertile, où on les considérait comme des ermites inoffensifs. Longtemps après les grandes guerres, l'ancien monde semblait en paix. Une fois le camouflage disparu, nous avons décidé de recourir à des experts extérieurs, les plus brillants de la vallée, à condition qu'ils aient le don. Prudents, nous avons seulement invité les génies, puis nous les avons guidés jusqu'ici. Depuis, coupa Simon, une centaine d'érudits travaillent en ces murs. J'ai été un des premiers à arriver, assez jeune et enthousiaste pour consacrer ma vie à découvrir toutes ces connaissances. Doué pour interpréter les textes, j'ai appris plusieurs langues étrangères. M'imposant grâce à mes talents, j'ai fini par devenir le chef suprême.
Simon sourit, puis se rembrunit.
Je suis là depuis 20 ans. Soit le moment de la fuite du buveur de vie.
Depuis des années, ajouta Victoria, dépitée, nous n'avons plus de nouveaux érudits.
Dans la vallée, les villes ont disparu, avalées par la balafre. En fait, il ne reste que nous. Le fléau du buveur de vie ne nous a pas encore atteints, mais ce n'est qu'une question de temps, quelques années au maximum.
Simon approuva gravement.
Aux archives, notre plus grand travail est de comprendre les textes que nous classons. Des trésors de connaissances, certes, mais dans quel désordre? Après 50 ans, plus de la moitié des livres ne sont toujours pas recensés.
Mes mémoristes ont enregistré des ouvrages isolés, dit Victoria. Nous avons tenté de faire la synthèse, mais c'est un puzzle géant qui nous dépasse.
D'autant plus, grinça Simon, que vos souvenirs sont rarement vérifiables via une documentation sérieuse.
Le conservateur s'empara d'une tranche d'orange enrobée de miel.
Par bonheur, nous pouvons désormais étudier tous les ouvrages, et il n'y a plus besoin de mémoristes spécialisés. Des équipes d'érudits ont lu des grimoires et les ont traduits afin de se réapproprier toutes ces connaissances et de les utiliser. Un jour, nous serons de grands sorciers, mais ça prendra du temps. Nous sommes tous des autodidactes, certains plus doués que les autres. Ensemble, nous cherchons un sortilège qui nous permettra d'affronter le buveur de vie.
Simon baissa les yeux.
Si nous en avons le courage.
Des sorciers autodidactes? S'étonna Nietzsche, sceptique. Les sœurs de la lumière consacraient des années à entraîner de jeunes hommes nés avec le don. Et vous pensez vous former tout seul, avec de vieux grimoires peut-être mal traduits?
Nathan vola au secours de la magicienne.
« Et si vos mémoristes avaient mélangé certaines phrases ou mal compris quelques mots, se transmettant ces erreurs de génération en génération? Dans une légende ou un récit, ça ne changerait pas la face du monde, mais pour un sort puissant !»
Alors que Victoria fronçait les sourcils, Simon marmonnant de vagues excuses, Nietzsche repensa à la tour en mauvais état et fut prompt à additionner 2 + 2.
Vous avez déjà commis des erreurs, n'est-ce pas? Très graves.
Simon et Victoria blêmirent.
Il y a eu des dérapages,
avoua le conservateur en chef.
Un de nos disciples les plus ambitieux a eu un accident, une expérience qui a mal tourné, et notre salle des prophéties est gravement endommagée. De lourdes pertes. Nous n'y allons plus. Les murs ont à demi fondu.
« Mes mémoristes se souviennent d'une partie des ouvrages détruits, » rappela Victoria. « Nous ferons de notre mieux pour les reproduire. »
Nathan échangea un regard inquiet avec Nietzsche, puis il s'adressa aux érudits.
« Je vous conseille une extrême prudence. Certaines choses sont très dangereuses pour être prises à la légère. Votre accident a détruit un bâtiment. Et si une autre erreur avait des conséquences encore plus graves ?»
Simon se leva, le regard fuyant.
Vous avez raison, j'en ai peur. Un autre érudit a jadis commis une faute. Depuis, il est le buveur de vie. Et c'est le monde entier qui risque de subir les conséquences de son erreur.